C'est vrai que Chamonix est un symbole aussi en ce sens que c'est aussi un lieu qui est super accessible, Chamonix. On y vient facilement. Et donc, on se dit, on est un symbole aussi dans cette accessibilité, cette facilité à se rendre dans un secteur très concerné par le réchauffement climatique.
CO2, mon amour.
Je trouve génial cette vallée aussi pour ça, c'est que l'environnement ici, il n'est pas de droite, de gauche, c'est que il est partagé.
Denis Chessou.
Et ces valeurs environnementales, maintenant, elles font partie du socle commun de nos valeurs locales. J'en suis très heureux.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement avec aujourd'hui Ludovic Asselot et David Castelin à la technique et assisté de Claire Destacance et Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Ah, mais qui a kidnappé l'hiver? Où donc l'avez-vous planqué? Sous le lit, sous la terre? Vous avez vu passer l'hiver? Avis de recherche, placardé là, oui, wanted. Un type en blanc, un peu froid, le regard gelé, des flocons de neige à la main, le cœur englaçonné, et pour tout dire, un type un peu givré. Vous l'avez pas vu? Sur un autre mystère et un autre hémisphère. Il ne s'est pas trompé de fuseau horaire? Ah ben non, parce que nous on est mal, hein. Se retrouver en string ou en maillot de bain avec des températures de mai devant la crèche? Vous croyez que c'est sérieux, ça? L'âne a des lunettes de soleil, le bœuf et sa boîte de lasagne incorporée ont un chapeau de paille sur la tête, Joseph est en short, Marie légèrement vêtue, ils ont fait les soldes d'été, et on envisage même d'installer la clim dans l'étable, la clim dans l'étable. Quant aux bons hommes de neige, vous en avez vu? Ils tiennent aujourd'hui dans une bouteille d'eau, hein, pas plus. Et d'ailleurs demain, dans l'atu du Mont Petit Loup, je vais vous présenter un album à la recherche du Père Noël. Bon, c'est l'histoire d'un bonhomme de neige qui cherche le Père Noël pour lui apporter un cadeau. Je vais être ridicule! Bon, ce sera pas la première fois. Y a pas de neige, vont me dire les enfants. Il est nul ton bouquin. À force de parler de réchauffement climatique, voilà ce qui arrive. C'est ça, les prophéties auto-réalisatrices. Eh ben, nous, on veut du froid. Pas des poiriers en fleurs au jardin du Luxembourg. On mange encore des fraises en Bretagne. Les saules bourgeonnent. Le forsythia retient d'enfiler son maillot jaune. Il se retient, là, comme ça. Les cognassiers décognent. Ah, tout le monde a soif. Normalement, c'est la dormance. Allez, tout le monde, la végétation au lit. C'est quoi l'embrouille? Eh ben, en fait, on a un méga anticyclone qui nous protège depuis novembre. Malheureusement, pas de tout. Et il aspire goulûment l'air chaud des zones intertropicales. Alors d'accord, on a déjà connu un non-hiver similaire en 1934. Mais avec le réchauffement, les masses d'air sont plus chaudes qu'elles auraient été il y a 81 ans. Et derrière ça, une fois de plus, on le sait, le coup de gel inévitable est en embuscade pour plus tard. Alors vous allez me dire, ça évite de chauffer les terrasses des bistrots, les marchands de gaz et EDF font la gueule, d'accord, les bestioles vont proliférer et la chimie ensuite va se régaler. Ouais, mais la nature ne sait plus où donner du bourgeon. Alors je sais bien, on n'est pas encore le 21 décembre, mais habituellement, il est déjà là, dans les coulisses. Alors ne change pas tes coutumes et us. Si vous le croisez, dites-lui de revenir. Ça va 5 minutes, Noël, au balcon. Et puis quand même, ça fait grimper les statistiques. Un hiver sans boulot, ça fait un chômeur de plus. Et on va rester véritablement dans ce thème aujourd'hui parce qu'on va aller du côté de Chamonix, vous l'avez compris, ça va être la première partie de notre émission, on va rejoindre le maire Éric Fournier, et puis, alors après, deuxième partie, ça va être très joli, ça va être très très lyrique, on va parler de fées et d'insectes, mais tout de suite, on va s'enseigner dans votre sujet du côté de la Haute-Savoie. Bonjour Luc Moreau.
Bonjour Denis.
Alors Charles Moreau, vous êtes glaciologue et vous appartenez au laboratoire, vous êtes associé au laboratoire Editem, environnement, dynamique, territoire de la montagne. Et alors là, vous êtes déjà dites-nous où êtes-vous en ce moment, parce que là vous êtes avec votre portable, vous êtes dehors en Haute-Savoie, à quel endroit êtes-vous là?
Oui, j'ai la chance d'être devant le glacier d'Argentière, donc c'est le deuxième glacier du massif du Mont Blanc que vous connaissez bien, Denis.
Oui, tout à fait. Et alors, d'ailleurs, on s'en va faire un peu ancien combattant, mais quand on s'est rencontrés la première fois en 1987, à la même époque, enfin à 15 jours près, il faisait moins 25 dehors et il faisait zéro sous le glacier d'Argentière. Voilà, donc c'est ça.
Exactement. J'ai mis les pots de phoque et les crampons avec toi les premières journées où j'avais eu un utilisé ces instruments-là de glaciologue maintenant. Ouais. Et ensuite, je suis devenu glaciologue, voilà. Donc, tu fais partie de ma lancée. Bon, hein, bah, et l'émission s'appelait Échappée Belle.
C'était Échappée Belle sur France Culture, absolument, de Marie-Hélène Fraissé. Alors, Luc Moreau, racontez-nous donc maintenant où en est-on? Parce que, en fait, le boulot d'un glacier, c'est toujours d'avancer et de reculer. Autrement dit, c'est une dynamique. Mais quand même, où en est-on aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, sur les glaciers 1 que vous connaissez, on va élargir le sujet, mais sur ces glaciers alpins.
Oui. Alors, en fait, bon, les glaciers sont des parties, ça fait partie du cycle de l'eau, et c'est le résultat du climat. C'est la neige qui s'accumule, qui devient de la glace, et la glace ne s'accumule pas sur des kilomètres d'épaisseur dans les massifs et les montagnes, et cette masse de glace s'écoule, glisse, descend, et bien évidemment, la neige fond dans l'été, et la glace aussi. Heureusement, sinon la vallée de Chamonix serait un peu englacée, comme ça s'est passé déjà pas mal de fois dans l'histoire. Les glaciers ont déjà avancé, bien sûr, ont gagné de la longueur. Aujourd'hui, nos glaciers sont en retrait, donc ils caractérisent voilà un climat qui est défavorable, donc le réchauffement climatique, il y a bien réchauffement climatique. Mais il faut juste pas se tromper dans le sens où depuis 25 ans, bah, nos étés en moyenne sont chauds. Je dis en moyenne parce que bon, bah, cette année on a eu une canicule avec très très peu de neige l'hiver dernier, donc le drap blanc a très vite disparu au printemps. La glace a été très vite entamée par les grosses températures de juillet. Mais l'année 2014, par exemple, a été très favorable pour les glaciers. Ils ont très très peu perdu. Bon, après ça, on fait des moyennes et c'est normal. On est obligé pour avoir de longues séries de mesures. Donc depuis 25 ans, nos glaciers se réduisent. On retrouve aujourd'hui, on va dire, l'état du Moyen-Âge, époque romaine. Donc, ça veut dire que les glaciers ont déjà connu un état comme aujourd'hui, sauf que à ces époques-là, voilà, c'était complètement naturel et on n'était pas là.
C'est voilà. Ça.
Donc, le problème aujourd'hui, c'est que on est partout
présent. Il y a des humains.
Et sur les côtes, et la montée du niveau des mers. Donc, nos glaciers, quasiment, on va dire, 98% des glaciers du monde sont en retrait. Ça touche même aujourd'hui glaciaire qui où j'ai la chance aussi d'aller au Groenland depuis deux fois où on étudie un glacier là-bas. Et donc voilà. Alors par contre dans les Alpes, c'est bien de dire quand même que nos glaciers se réduisent plus vite qu'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de processus et naturels quand même aussi encore heureusement.
Oui. Et alors Edouard
Citation. Oui.
Denis. Oui, c'est-à-dire qu'on vous entend de manière hachée, on a bien compris que vous étiez en direct, mais on va y arriver, donc essayez de ne pas trop bouger, tout va bien. C'est vrai que du côté des Pyrénées, je crois qu'il reste moins de 10 km carrés, il me semble qu'il y en a beaucoup moins, même 3 km carrés de glaciers. Mais vous, donc, c'est un peu plus au nord. On est quand même aussi au centre de l'Europe, hein, on va dire que cette bande des Alpes, donc cet arc alpin est aussi placé donc un petit peu différemment. Mais alors, en fait, aujourd'hui, on s'intéresse à mesure, enfin, on mesure les glaciers. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse tant en définitive? Pourquoi l'être humain s'y intéresse?
Alors, les glaciers, on a commencé à les mesurer, c'est juste, c'est une science relativement récente quand même, mais Joseph Vallot, qui avait commencé à mesurer les mers de glace en longueur, un hélicoptère qui passe là, pas loin, oui. Ça fait partie du jeu.
C'est pas grave.
Et donc, les glaciers, oui, on les mesure en précipitation de neige.
Bon, alors, qu'a fait, où qu'il est, notre Luc Moreau, c'est pas un aigle qui l'a emporté, à mon avis, c'est effectivement l'hélicoptère. Bon, alors, en fait, c'est vrai que l'on mesure quand même ces glaciers aussi pour une raison toute simple, c'est pour voir aussi les conséquences qu'il peut y avoir. Vous avez donc cette vallée de l'Arve où nous sommes, donc, du côté de Chamonix. Et puis, bah, évidemment, vous avez des précipitations qui vont être beaucoup plus importantes. Donc, c'est ça aussi que l'on craint. Autrement dit, on craint les inondations. On essaiera de retrouver tout à fait tranquillement Luc Moreau. Hein, donc si on vous a perdu, on va essayer de vous retrouver. Voilà, donc du côté du glacier de l'Argentière. Et puis nous, on va retrouver d'ici 3-4 minutes, hein, oui, le maire de Chamonix, Eric Fournier. Et je vous propose de partir avec cette première chanson. Et bien sûr, comme nous sommes extrêmement subtils dans cette émission, ça s'appelle comme un igloo. Ah bah oui, bah oui, c'est Étienne Dao, pas mal non plus.
Prends ascensionnelle qui pénètre mes sens, si diffuse jusqu'au ciel, je la donne. Pour cela, je ne crains plus personne. Et je n'attendrai plus qu'on me sonne. C'est dans ton sourire que je soupçonne. C'est en toi que l'amour se lève.
C'est deux, mon amour.
Eh, ça ramène les poumons, hein.
Allez, on y va.
J'en ai plein les skis, moi.
Flashissez les genoux, les hanches, en avant.
Délicieux.
Ah bah oui, on n'hésite pas du tout, hein. Donc on vous a retrouvé Luc Moreau, donc glaciologue, je le rappelle. Alors on a donc ce glacier de l'Argentière où vous êtes, donc la mer de glace est le plus grand glacier, on va dire, des Alpes, 14 kilomètres, me semble-t-il. Les Bossons sont à côté, on a le Taconaze. Bon, donc évidemment, on mesure ces glaciers, on le disait, d'abord parce que la science s'y intéresse, et puis aussi parce que derrière il y a des risques, hein. Donc on le sait, des risques de crues, des risques d'inondations, etc., qui sont bien présents. Mais vous avez aussi presque envie de mesurer un petit bout d'avenir et de penser donc à ce qui peut se passer demain. Tout ça, lorsque vous êtes dans un milieu comme celui-là, qui est plein à la fois de poésie mais aussi de dureté, anime un petit peu vos neurones. Dites-moi.
Oui, les glaciers, bon, oui, on les, bon, ils réagissent très très vite aux variations du climat, comme vous le dites, et donc ils ont été plus longs, plus courts, et aujourd'hui on les mesure, oui, voilà, parce que il y a des nouveaux dangers avec ce changement climatique, des dangers qui sont différents de ceux quand les glaciers avançaient au Moyen Âge et qui rasaient des maisons en bas dans la vallée. Aujourd'hui, c'est des nouveaux dangers, c'est des moraines qui s'écroulent. Ludovic nous en parle beaucoup. Mmh. Et donc des poches d'eau, des poches d'eau qui sont quand même relativement rares au glacier de Pétrousse, mais des lacs de fonte, voilà, donc ça fait partie aussi, oui. Vous êtes là ?
Oui, on est là, oui.
Oui, les glaciers froids d'altitude qui commencent à glisser un petit peu plus, un petit peu moins collés, donc ils lâchent plus de morceaux de glace, ça peut déclencher des avalanches de neige un peu plus importantes, des hivers bien enneigés, comme le glacier de Tacona, à côté du glacier des Bossons. Mais voilà, donc aujourd'hui on parle beaucoup, voilà, climat, glacier, donc les glaciers aujourd'hui on les connaît bien, on connaît bien leur dynamique. Moi je travaille plutôt sur les vitesses d'écoulement et l'écoulement de l'eau qui est sous la glace, qu'on utilise pour remplir des barrages, voilà, produire de l'énergie propre, voilà les technologies propres, voilà, il faut aller dans ce sens-là, j'avais envie de finir là-dessus, dans le sens où l'environnement aujourd'hui, eh bien, c'est pas protéger l'environnement pour les générations futures, pour un décor, l'environnement, comme vous dites bien, Denis, dans votre émission, c'est, on vit de ces montagnes, de ces glaciers, de ces océans, du soleil, des animaux, de la biodiversité, des plantes, et tout ça, on se doit de le garder pour nous, et soyons égoïstes, entre guillemets, ensemble, parce que ici à Chamonix et dans la vallée de l'Arve, on voit bien un petit peu toute cette pollution d'air et d'eau dont on a...
Oui.
Dont on voit les pics de pollution tous les jours, et donc utilisons les technologies propres qui existent aujourd'hui pour surtout fabriquer de l'électricité avec pas du charbon et du pétrole, mais les technologies propres, solaires, hydroélectriques, pour fabriquer des voitures électriques.
Et ben voilà, ça c'est,
s'en sort, c'est... parce que la population augmente. Et j'aime bien dire, voilà, l'hôtesse de l'air qui est dans l'avion, elle nous présente en cas de problème, voilà, vous allez avoir le masque à oxygène qui tombe. Ne le mettez pas à votre enfant, mettez-le à vous-même d'abord pour pouvoir sauver votre enfant et éventuellement sauver les autres. Donc utilisons, voilà, ce climat et ces glaciers.
Eh ben c'est une belle image.
21, etc.
Moi, je peux vous renvoyer donc
assez. Voilà.
Je vous renvoie, pardonnez-moi, parce que là, vraiment, effectivement, on doit vraiment aussi avancer. Je vous renvoie à cet ouvrage. Vous le retrouverez sur le site dans les secrets de la mer de glace que vous avez écrit. Grand merci à vous, Luc Moreau. Je vais me tourner
avec
vers un homme que...
glaciologue.
Eh ben voilà. Puis je vais me tourner vers un homme que vous connaissez très, très bien, évidemment. Alors, je l'ai rencontré il y a quelques jours. C'est Éric Fournier, le maire de Chamonix, qui est le président aussi de la communauté de communes. Bonjour, Éric Fournier.
Bonjour, Denis.
Alors, Éric Fournier, en fait, on va tout dire. C'est-à-dire qu'on voulait faire le petit reportage dehors, mais on est quand même un peu au mois de décembre. Il fait un peu froid quand même chez vous. Et la température moyenne annuelle, c'est 7 degrés à peu près.
Et oui, c'est 7 degrés. D'ailleurs, c'est un sujet qui nous lance droit dans le cœur de notre question, puisqu'on a quand même effectivement une élévation des températures, un nombre de jours où il fait bon. Bah, heureusement, au mois de décembre, c'est un peu plus frisqué et c'est tant mieux pour notre météo, notre ski et tout ce qu'on doit faire l'hiver et tout ce que la nature a besoin de se reconstituer pendant cette période-là.
Alors, ce qui est intéressant, Éric Fournier, on va commencer tout de suite par là. On est ici sur un laboratoire du réchauffement climatique d'altitude.
Le phénomène, il est là. C'est vrai que ça se réchauffe deux fois plus vite que dans la plaine, mais que ce soit dans l'Himalaya, c'est aussi le cas. Alors, comment on prend cette affaire-là lorsqu'on a donc 95% de l'apport qui vient du tourisme? Et puis après, donc, il y a aussi le phénomène de pollution.
D'abord, effectivement, le constat est extrêmement fort et net. Des glaciers qui fondent extrêmement rapidement, un nombre de jours de fusion de la neige important, quand bien même des précipitations demeurent à un haut niveau. Et donc, des phénomènes qui s'amplifient avec un risque hydraulique, avec des préoccupations en termes de risques naturels que nous devons prendre en compte, et puis une adaptation évidente de notre tourisme. Alors c'est vrai que Chamonix est un symbole aussi en ce sens que c'est d'abord un lieu qui reste magique et magnifique, mais c'est aussi un lieu qui est super accessible, Chamonix. On y vient facilement. Et donc on se dit, on est un symbole aussi dans cette accessibilité, cette facilité à se rendre dans un secteur très concerné par le réchauffement climatique.
Alors, tenez, à ce sujet, c'est vrai que 1860, Napoléon III, donc, qui vient quand même à Chamonix. Bon, il fallait quand même régler des affaires courantes. Autrement dit, donc, la réunion des Savoies, de Nice, donc, à la France. Et puis, ça a été aussi un peu l'ouverture, peut-être, de, alors, je sais pas, route, train.
Oui, alors, c'est ça, c'est 1860 et encore à ce moment-là, les diligences. Et puis, très rapidement après, dans les années 1880, l'arrivée du PLM et de la ligne ferroviaire qui a traversé la vallée et qui a rejoint la Suisse, avec là déjà des ruptures en termes de nombre de touristes qui étaient significatives. On est passé de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers avec le ferroviaire. Eh bien, on arrive maintenant, en ce début de 21e siècle, à un tourisme quantitativement très important à Chamonix. On fait 4,5 millions de nuitées par an.
Quel est votre nom?
Jean-Claude, et vous? C'est Duce, avec un D comme Duce. Bah oui, mais moi je suis très embêté parce que j'avais demandé expressément une chambre double. Parce que j'aurais peut-être une copine éventuellement qui viendrait de Paris, enfin si ça se trouve.
Ah, je suis désolée monsieur, mais on est un peu surchargé en ce moment. Mais enfin, si vous me dites exactement à quelle date votre dame arrive, on pourra s'arranger.
Ah bah oui, mais ça j'en sais rien, parce que ça peut être ce soir, ça peut être demain, ou... Il n'y a pas qu'elle. Vous par exemple, qu'est-ce que vous faites ce soir?
Comment est-ce que ce lieu, finalement, et est-ce qu'il est possible pour un lieu d'offrir un modèle post-carbone, d'un modèle prenant en compte les grands enjeux de demain en termes de réchauffement climatique, d'adaptation à ce réchauffement climatique pour nos pistes de ski, pour nos pratiques du quotidien, pour nos déplacements? On est une vallée, ça veut dire qu'on est en longueur, faut se déplacer. On n'a pas les mêmes lieux entre la résidence, les commerces, les services, les lieux touristiques. Est-ce qu'on est capable d'offrir un modèle où l'homme a sa place dans cette affaire-là?
Alors concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui? On a les transports, on a l'alimentation et puis bien sûr aussi on a le chauffage.
Alors, la vallée de Chamonix s'est lancée du côté des politiques publiques sur ce qu'on fait traditionnellement, c'est-à-dire travailler sur les deux grands volets qui, de notre côté, sont générateurs de nuisances, qui peuvent être les transports ou bien l'habitat. Alors sur les transports, c'est un choix extrêmement fort vers tout d'abord les transports collectifs. Ça c'est déjà un petit peu ancien, ça fait une quinzaine d'années qu'on a fait des choix très forts sur le sujet. L'un d'entre eux par exemple, c'est la libre circulation. C'est pas la gratuité parce qu'il y a bien quelqu'un qui paye et c'est la collectivité. Mais c'est une libre circulation, c'est-à-dire que chaque personne qui vient dans la vallée, à partir du moment où elle passe une nuit, qu'elle soit résidente permanente, temporaire, se voit délivrer une carte de circulation qui lui donne accès au transport collectif, de manière gratuite, les bus et les trains.
C'est-à-dire de quoi? Depuis Saint-Gervais jusqu'ici
Sur le territoire de la communauté de communes, c'est-à-dire de Servoz, très exactement, à Valorcine, en incluant donc les Ouches.
Donc jusqu'à la frontière suisse, quoi.
C'est ça. Et puis évidemment, les gens adorent ça, parce que c'est du coup maintenant un motif de venue dans la vallée, et puis le transport fait partie du produit touristique. C'est le petit train rouge, c'est un train touristique, c'est un train sur lequel on peut se déplacer, mais qui est aussi un vrai motif de contemplation du paysage de manière relaxe. Et on a maintenant 3 millions de voyages faits par le transport collectif et des parts modales en hiver qui vont jusqu'à 50%.
Alors, vous avez une chose qui est très intéressante aussi, Eric Fournier, c'est que là, vous allez voir du côté de La Rochelle, en ce qui concerne les marchandises. Donc, ils ont créé une plateforme, si vous voulez, donc à l'entrée de La Rochelle, et après, c'est donc du transport électrique, parce qu'on sait très bien que les derniers kilomètres sont quand même extrêmement polluants au sein des villes. Donc, ça aussi, vous regardez.
Oui, alors, on est maintenant effectivement sur la mobilité électrique également, avec des expérimentations qui se font, avec des flottes qu'on passe de plus en plus à l'électrique. Notre petit réseau urbain se fait intégralement à l'électrique. On réfléchit également à une plateforme marchandise et à une desserte locale interne à la vallée qui se fait par ce type de véhicules-là. Donc le dernier kilomètre est aussi très très important.
Donc là, il faut vraiment mettre les entreprises et les marchands d'accord. Hein.
Absolument, c'est un job...
C'est un truc à plein temps.
C'est pas tout à fait facile, mais on y arrive parce que on travaille aussi maintenant beaucoup sur le volet rénovation énergétique des bâtiments, ouais. Avec une ambition qui est très forte. On sait que c'est des politiques de long terme. On est à côté de la Suisse, mes voisins suisses avec qui je discute souvent.
Ils peuvent être un peu contagieux, ça peut être bien.
Ils sont bons. Moi, je les aime bien. Ils ont des bonnes politiques en matière d'environnement. Alors, on a monté avec eux un programme qui est une première en France. Ça s'appelle Planétaire. Planétaire, c'est l'acronyme de planification énergétique territoriale. C'est-à-dire qu'on a fait un outil qui est très opérationnel pour nous, les communes, mais aussi pour chaque particulier, et qui, à la parcelle, explique et donne les indications. On va sur son ordinateur, on se connecte, on dit voilà, je suis locataire, propriétaire, ou j'ai envie d'aller sur telle parcelle. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire de la géothermie? Est-ce que je peux faire du solaire? Et puis, quel est mon potentiel? Donc, on a un potentiel évalué pour chaque parcelle, pour chaque propriétaire. Un relais direct.
Est-ce que j'ai de l'ombre ou est-ce que j'ai pas de l'ombre, etc.
Voilà, tout à fait. Et est-ce que je peux avoir des aides sur ce sujet-là? Et comment est-ce que nous allons maintenant être prescriptifs dans nos documents d'urbanisme pour dire, voilà, vous êtes sur tel secteur, on peut et vous devez prendre en compte cette préoccupation énergétique. Ça, c'est pour les constructions, les rénovations. Puis on a un dispositif d'aide financière important puisqu'on abonde le fameux crédit d'impôt transition énergétique. Ouais. Donc on l'abonde encore d'une quinzaine de pourcents au niveau de la communauté de communes. La rénovation énergétique aussi des bâtiments, c'est du long terme, mais c'est un point qui est très important. Puis on le fait aussi sur nos bâtiments publics parce que on a des bâtiments publics qui sont souvent... qui ont été conçus à l'ère préhistorique, exactement. C'est-à-dire quand les coups de
fluide se foutaient de l'énergie.
Et ça, c'est terrible. Donc, on travaille aussi sur cet axe-là. Adaptation aussi des produits et touristiques. On mouille un peu nos opérateurs aussi. Hein. On a un opérateur de remontée mécanique qui s'appelle la Compagnie du Mont-Blanc. On a signé un contrat avec eux.
C'est du lourd, même.
C'est du lourd. 40 ans de contrat. Mais on leur a dit, attention, tout ce que vous avez fait en investissement, ça doit passer au tamis des investissements réchauffement climatique et qualité environnementale. Donc, on investit ou on ne réinvestit que sur les sites dont on sait que durablement et à 40 ans.
Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que du côté sud, a priori, vous n'allez pas forcément réinvestir. Comment ça va se passer? Vous allez faire des choix, en tout cas.
On fait des choix. On investit, par exemple, plus en dessous de 2000 mètres côté sud, clairement.
Alors on va repasser maintenant sur le terrain, on aura peut-être un petit peu plus de chance. Tout à l'heure, Luc Moreau, notre glaciologue, a parlé de Ludovic. Alors Ludovic, c'est Ludovic Ravanel, qui est géomorphologue au laboratoire donc EDITEM, qui signifie Environnement, Dynamique et Territoire de la Montagne. Où êtes-vous Ludovic? Bonjour à vous.
Bonjour Denis. Bah, je redescends sur la mer de glace, j'ai été récupérer des photos d'un appareil photo qui photographie le glacier de la Charpoix au pied de l'Aiguille Verte.
Vous êtes géomorphologue, hein, vous travaillez au CNR. Vous faites partie d'une longue dynastie des Ravanel, parce que quand on dit Ravanel dans la vallée de Chamonix, en général on dit ah bah oui, mais alors c'est lequel? Et ben voilà, ben moi je voudrais le jeune qui est scientifique et qui voit ces montagnes évoluer. Alors avec le réchauffement climatique, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui Ludovic?
On peut regarder ce qui s'est passé avant-hier au pied du Mont Rose, sur le versant italien du Mont Rose. Le Mont Rose, une montagne tout à fait emblématique des Alpes. Et ben on a un million et demi de mètres cubes de rochers qui sont écroulés, donnant l'occasion de la production d'une avalanche rocheuse. Et effectivement, actuellement, avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus d'instabilité dans les parois rocheuses. Alors on voit ça à l'échelle des Alpes tout entières, et en particulier à l'échelle du massif du Mont-Blanc, que j'étudie tout particulièrement.
Quel est en fait le phénomène, que l'on comprenne bien? Pourquoi ça s'écroule?
Alors, à partir d'une certaine altitude, on va dire grosso modo 2005 en versant nord, 3000 mètres en versant sud, les roches sont gelées en permanence. Ce gel permanent permet la présence de glace dans les fissures, l'ensemble constituant ce qu'on appelle le permafrost, Et la glace du permafrost assure un rôle de ciment. Et tout simplement, aujourd'hui, on est en train de dégrader cette glace, de faire fondre cette glace. De cette manière, on remet en question la stabilité des parois rocheuses.
Ça veut dire donc que la physionomie d'une partie des Alpes va bouger inévitablement.
Tout à fait. C'est-à-dire que dans tous les secteurs qui sont aujourd'hui encore gelés, on est susceptible de voir dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, de gros événements tels que celui qui vient de se produire dans le secteur du Mont Rose.
Ouais, et alors bon, que
ça change la physionomie des montagnes.
Vous avez même des voies mythiques, hein, je ne sais plus laquelle qu'avait faite Bonatti aussi, il y a une partie qui est déjà complètement écroulée.
Oui, exactement. Il y a 10 ans, juste au-dessus de Chamonix, on a une paroi tout à fait emblématique qui est tombée, c'est la face ouest des rues,
oui.
Avec en particulier le pilier Bonatti qui avait été gravi pour la première fois en 1955. Donc 50 ans après sa première ascension, ce pilier s'est complètement écroulé.
Est-ce que ça peut se prévoir malgré tout? Est-ce qu'on peut faire de la prévention ou bien ça peut tomber comme ça n'importe quand?
Alors ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces questions au laboratoire Editem à Chambéry. Et on a accumulé beaucoup de connaissances sur ces événements. On a notamment un réseau d'observation dans le massif du Mont-Blanc qui nous permet de recenser quasiment en direct tout ce qui se passe. Cette année, par exemple, on a recensé plus de 160 événements, ce qui est en fait l'année la plus importante du point de vue de la fréquence et du volume des événements. Donc on a comme ça toute une série de mesures qui nous permet de dire dans quel contexte ça se produit, mais par contre, on n'est pas capable encore de dire quand ça va se produire.
Ludovic Ravanel, aujourd'hui 19 décembre, vous êtes pratiquement en t-shirt, vous êtes à quelle altitude là? Enfin, quel temps fait-il?
Là, je suis à peu près à 2100 mètres d'altitude et, oui. Et bah, il fait beau, le ciel est un petit peu voilé, mais c'est vrai qu'on a des températures qui sont tout à fait anormales par rapport à la saison. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, en ces périodes hivernales, où on a des températures relativement clémentes. Mais là, depuis le milieu de l'automne, on a des températures qui sont anormalement chaudes.
Ludovic, en fait, ce qui se passe dans les Alpes se passe aussi dans les contrées du Nord, où vous avez donc ce fameux permafrost qui l'ont gelé et qui est en train de dégeler, que ce soit dans du côté du cercle arctique, du côté de la Sibérie, avec là, pour le coup, dégagement de CH4 et de méthane. Donc là ce sont des rétroactions qui sont très importantes pour le climat.
Tout à fait. C'est vrai que le permafrost, on l'a à haute altitude, mais on le trouve également à haute latitude. Et là, c'est pas uniquement des problématiques de risque que l'on peut y voir, c'est effectivement des problèmes de rétroaction positive. Plus le permafrost dégèle, plus on a de rejets de gaz à effet de serre, et plus ces gaz à effet de serre, ensuite, impliquent un réchauffement du climat.
Écoutez, bonne balade à vous. Merci à vous, Ludovic Ravanel. Et puis, dans quelques instants, on rejoindra Éric Fournier, le maire de Chamonix.
CO2 Mon Amour avec Denis Chesson sur France Inter.
Hush my child and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Do not obey rumors, people say, but you can pass.
C'était un petit classique, c'était Curtis Mayfield sur France Inter, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Et nous retournons à Chamonix, toujours avec Éric Fournier, donc le maire de Chamonix. Et on va s'intéresser à l'assiette, parce que l'assiette, c'est quand même en gros 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. On compte tout hein, dedans, on compte les transports, etc. Donc on a bien pris conscience de tout ce qui se passait, plus particulièrement lorsque l'on est en zone de montagne. Et là, il y a des actions, Éric Fournier.
Alors ça, c'est un truc qui est juste génial, c'est que on a la chance d'être à côté effectivement du Valais, du Val d'Aoste, et d'avoir nous-mêmes des productions sur la vallée de l'Arve et le pays du Mont Blanc. Et on a monté un circuit court autour du Mont Blanc, qui est un ravissement aussi pour les papilles, puisque il y a trois gastronomies, la française, l'italienne et la suisse, et on peut à la fois faire du circuit court et se faire vraiment très plaisir dans l'assiette. Alors, c'est vrai pour la qualité et l'alimentation de tous, des restaurants les plus prestigieux qu'on peut trouver dans nos vallées, jusqu'aux cantines scolaires qui sont très largement alimenté par les productions locales. Oui. Alors ça se passe sur un périmètre qui est le tour des vallées du Mont-Blanc, avec Megève pour l'abattoir. On a refait un abattoir à Megève avec pour les productions locales, avec pas mal de producteurs de lait sur les secteurs et leurs différentes productions.
C'est-à-dire que vous, dans les cahiers des charges, mettons des cantines, vous vous y veillez, vous faites attention.
C'est impératif. On sait que le lien santé-environnement, il est absolument déterminant.
Sentez comme ça sent le fil de bois.
Qu'est-ce que c'est mignon chez eux.
Ça, c'est une recette du pays. Hein? Ça s'appelle la fougne.
La fougne.
Et c'est quoi qu'il y a dedans là?
Ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors on fait macérer ça avec du gras et puis l'alcool de bois.
C'est quoi les petits trucs blancs maintenant?
Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi.
Alors, Éric Fournier, parlons quand même de ce plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. Donc ça, c'est le préfet qui était obligé de prendre cette initiative il y a déjà un certain temps. Bon, on sait que malheureusement, vous êtes sur un coin très concentré. Je veux dire, par là, vous êtes sur 17 km de long, le rappel, et 1 km de large. Donc ça, c'est les lois physiques que l'on connaît, et aussi les lois de la chimie. Comment fait-on, d'autant qu'on se rend compte que le chauffage individuel au bois est chez vous la première source émettrice de particules dans la vallée?
Oui. Alors ça, c'est un point, quand on veut améliorer la qualité de l'air dans un secteur, il faut traiter toutes les sources de pollution. Et c'est vrai qu'on a, depuis 10 ans, on le voit à Chamonix, on a une amélioration de la qualité de l'air, notamment sur les PM. Ça veut dire que notre travail sur le résidentiel, petit à petit, porte ses fruits.
On va juste rappeler quand même les PM, sont nos petites particules.
C'est les petites particules en suspension qui sont effectivement extrêmement irritantes, avec des granulométries différentes, mais qui sont un indicateur fort de la pollution d'un site. Alors donc sur les PM, c'est le résidentiel et c'est effectivement le chauffage urbain. Petit à petit, les efforts faits, en 10 ans, sur Chamonix et sur sa vallée, montrent qu'on améliore les choses, puisque la participation du résidentiel à l'émission de poussière en suspension diminue de 7 à 8%.
Donc, par exemple, vous avez dit, bon, l'éco-buage, maintenant, ça s'est terminé.
L'éco-buage, c'est terminé. Stop, c'est super sympa de faire une belle flambée quand vous arrivez dans votre chalet, mais c'est catastrophique.
C'est une catastrophe. Oui,
c'est une catastrophe, donc ça, on fait plus. On peut même d'ailleurs vous aider à plus faire, et on vous aide à plus faire en vous donnant 1000 euros pour passer à un instrument de brûlage du bois. Le bois n'est pas détestable en tant qu'énergie. S'il est bien sec, s'il est sur une filière courte d'approvisionnement, c'est même très très bien. Simplement, il faut le brûler dans de bonnes conditions. Et entre un appareil neuf et une flambée au coin du feu, comme on faisait jadis, eh bien, il y a une différence de 99% d'émissions de polluants. C'est juste absolument incroyable. Donc on dit, mais mettez un poêle contemporain ou un insert de dernière génération, vous aurez 1000 euros de subvention, donc ça représente en gros une vingtaine de pourcents du coût d'investissement global, et ça améliore effectivement bien les choses. Maintenant, il ne faut pas non plus mettre sur le dos de l'habitat résidentiel la totalité des problèmes de pollution. Hein. Moi, ce que je constate depuis 10 ans, c'est que on s'améliore sur les PM. La station de centre urbain de Chamonix en matière de qualité de l'air le montre. Par contre, la situation se dégrade sur les émissions de dioxyde d'azote. Et ça, là-dessus, dioxyde d'azote, c'est un polluant d'origine automobile. Hein. Et oui, il faut travailler sur la dédiésalisation de notre parc, quand même. C'est un, je sais bien qu'on y va là à coups de brumisateur alors qu'il y a le feu.
Oui,
il faudrait quand même essayer de se secouer un petit peu plus là-dessus. Mais je crois qu'on a chacun à faire des choses sur ce sujet-là. Et puis, moi, je me rappelle il y a 15 ans, quand j'étais jeune élu, on me disait balayez devant votre porte. On est en train de le faire. Alors moi, je demande aussi à l'État de le faire. On a des poids lourds qui continuent à circuler, qui sont des poids lourds polluants.
Alors, vous en avez 1500 à peu près par jour, ouais. Et 3500 véhicules.
Et sur ces 1500 par jour, on en a un peu moins de 10% qui sont des vieux poids lourds. Ça s'appelle des Euro 3. Il y a une gradation, Euro 3, 4, 5, 6. Et plus on monte dans les chiffres, plus on... ils ne sont pas vertueux, mais en tout cas, moins ils sont polluants.
Oui, c'est vous.
Et les Euro 3 sont des extraordinairement polluants. Donc moi, ce que je dis, c'est écoutez, on a des capacités quand même dans ce pays à faire autrement. On a une autoroute ferroviaire entre Eton et Herbassano. Elle n'est pas magnifique, mais elle existe déjà. On peut faire mieux, on pourra l'améliorer. Est-ce qu'on ne peut pas, le temps des épisodes de pollution, envoyer clairement, dès le seuil d'information dépassé, ces Euro 3...
Stop, vous montez sur les wagons.
Ah non, de Dieu. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Quelle majestuosité. C'est splendide. C'est à toi, ça T'es pas dans une décharge, ici, vieux, hein? T'es dans un site que tu dois traverser avec respect. Et le respect, c'est pas de déposer tes crasses un peu partout. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs. Ok? Bon, contrat?
Contrat?
J'ai pas entendu.
Contrat?
Éric Fournier, on est en 2030. Société post-carbone, on y va. À quoi ressemble la vallée?
Eh bien, on a une vallée qui est encore plus qu'aujourd'hui desservie par un réseau de transport collectif propre.
On a plus de panneaux solaires.
Des panneaux solaires, naturellement, et c'est très très important le potentiel qu'on a même dans une vallée de montagne en matière de solaire. C'est absolument incroyable. Les études qu'on a faites là-dessus avec le programme planétaire, moi j'avoue que je ne croyais pas à un potentiel solaire aussi important dans une vallée de montagne. Ça couvre nos besoins. Le passage à quelque chose aussi de plus en lien avec l'économie locale et avec l'artisanat. Moi, je suis persuadé qu'on n'a pas encore tout développé de ce côté-là. On n'est pas sur une écologie punitive. Dire à des artisans, tiens, demain tu es reconnu garant de l'environnement et donc tu vas pouvoir participer aussi à cet effort de rénovation énergétique des bâtiments, c'est aussi une source pour l'économie et pour l'artisanat local. On n'a pas de grosses boîtes, nous, hein, c'est beaucoup de petits artisans, ben, de dire, voilà, je suis installé sur mon territoire. Puis il y a des développements de filières sur lesquels on n'a pas encore suffisamment travaillé. On parle de rénovation énergétique des bâtiments, il y a des choses sur l'utilisation des matériaux locaux, du bois, etc., sur lesquels on est encore en réflexion. Et donc, il y a encore du boulot d'ici à 2030.
Les hospices du Mont-Blanc qui nous regardent, qui a connu Chamonix. Alors Chamonix, c'était un petit hameau, puis après c'était un village, c'est ça, et maintenant c'est une ville à la montagne, quoi. Donc bon, il regarde ça d'un œil un peu, quoi, il a l'habitude, le Mont-Blanc, de voir comme ça.
Et il a l'habitude, et je pense qu'il doit effectivement nous juger ou nous jauger, mais c'est vrai que chaque génération a des enjeux à relever, et la nôtre, et ben c'est celui-ci. Alors, on l'a pas choisi, mais il faut le faire avec enthousiasme, parce qu'il est porteur aussi de sens, et peut-être de reconquête de sens sur notre lien avec le territoire.
Merci beaucoup Éric Fournier, puis à très bientôt.
Merci beaucoup Denis.
Voilà, donc j'espère donc intéressant de voir à la fois quelles sont les limites d'un maire, mais aussi les actions qui sont tout à fait possibles, les impulsions d'un maire donc de montagne dans ce lieu tout à fait emblématique. Vous en avez quelques-uns. Si on dit Mont-Saint-Michel, tout le monde connaît. Si on parle de Chamonix, bien sûr, tout le monde connaît. Il y a 13 500 habitants donc aujourd'hui dans la communauté de communes de Chamonix. Évidemment, c'est un entonnoir. Hein, c'est ce que disait Chateaubriand. C'était un entonnoir. Vous aviez deux grandes murailles qui sont extraordinaires, qui sont superbes, mais c'est quand même dans un entonnoir avec tous les problèmes que l'on connaît. Merci donc à Éric Fournier.
Fournier. Et puis dans quelques instants, eh ben, on va aller au pays des fées.
Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux. Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui mâche ses peaux. À la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça. Il y avait la pluie sur le toit de l'auto, quand une pluie est gentille, c'est beau. Il y avait des gouttes qui pleuraient au carreau, sur une route qui doute, c'est beau. Et soudain des pompes que l'on prenait d'assaut, une pompe qui pompe, c'est chaud. À l'amour ami que la vie fit ce jour-là, fut un amour poésie avec moi. Il y avait des phrases par-dessus les oiseaux, quand une phrase d'extase, c'est beau. Il y avait du charme, des orages trop gros, parfois aussi des gendarmes héros. Sortant ma voiture, n'importe quel niveau, une voiture qui dure, c'est beau. Poursuivant ma route, j'aperçois un logis où l'on casse la croûte aux bougies. Il y avait des fraises, des côtelettes d'agneau, une atmosphère Louis XIII, du vin chaud. Il y avait Thérèse et de la poule au pot, une Thérèse à l'aise, c'est beau. Où vas-tu, petite, ton service fini? Moi, je t'invite à venir dans ma nuit. C'est déjà novembre, apporte encore du bon vin, tout là-bas dans ma chambre, c'est au vin. À l'amour ami que j'ai vécu ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça.
Ah, et là, des oiseaux. Bah oui, parce qu'on est en hiver au mois de mai, donc c'est normal, on les entend. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, là, Xavier Pessoudia, mon réalisateur? Il y a pas, il y a des abeilles. Ouais! Voilà, envoyez les abeilles, c'est formidable. Sur France Inter, peut-être sur la route là, tranquillement, hein, sur la route de vos vacances. Peut-être pas aller faire beaucoup de ski, parce que moi, vous avez en tout cas la randonnée en montagne, ça c'est sûr. Et moi j'ai un très bel ouvrage qui s'appelle Les vraies fées de la nature. Les vraies fées, E-E-S, de la nature, aux éditions Plumes de Carotte. Ça déjà, Plumes de Carotte, hein, ça se retient. C'est signé François Lasserre, avec des photos, je le dis tout de suite, extraordinaires, de Stéphane Huette. Alors Stéphane Huette, on dirait des portraits, ce qu'il a fait, de la peinture. Pardon, on dirait des peintures, et en fait, eh ben non, ce sont véritablement des photos. Et alors François Lasserre, vous êtes un entomologiste déjà depuis tout petit, hein, vous aimez déjà beaucoup les insectes. Et alors le rapport entre les insectes et les fées, pourquoi les insectes sont des fées, François Lasserre?
Dans toutes mes démarches pour parler un peu mieux des insectes et les faire aimer, c'est pas facile. Ouais. Et en ouvrant tous les livres sur les fées, je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes des ailes, de libellules, de papillons, de mouches, ah, oui, ou d'abeilles. Et je me suis dit, mais évidemment, nos ancêtres qui avaient peur de leur ombre ont évidemment imaginé que les insectes étaient des espèces de nymphes ou de naïades sorties des eaux. Et particulièrement ceux qui avaient rencontré les vraies fées de la nature, comme par exemple une larve de libellule, qui est une espèce de gros truc gris qui vit sous l'eau, dans un monde parallèle, et puis qui un jour monte le long d'une tige de plante aquatique, s'arrête, son dos se fend et sort de cette espèce de créature, une autre créature, rouge, bleu, verte, immense. Qu'est-ce que c'est, sinon qu'une fée ?
La fée mignonne, tenez, je la vois. Alors, elle est très jolie. Qu'est-ce que c'est, la fée mignonne ?
Alors, la fée mignonne, c'est l'agrion mignon, mais je les présente comme des fées. Mais évidemment, oui, il y en a 65 dans le livre. Et la fée mignonne, son pouvoir magique, c'est quand on croise un tandem de fées mignonnes, croiser un tandem de fées mignonnes promet une rencontre amicale ou amoureuse. Mmh. Et qu'est-ce que c'est qu'un tandem de fées mignonnes? C'est que, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, Denis, au printemps, mais en général, les libellules sont par deux, le mâle tenant la femelle derrière la tête avec l'arrière de son corps. Mmh. Alors on peut se dire que c'est un tandem amoureux, mais c'est surtout que monsieur a décidé de ne jamais lâcher la femelle tant qu'elle n'a pas pondu 16 œufs.
Ah d'accord, donc il lâche pas l'affaire sans être certain que c'est vraiment lui le papa, quoi, en quelque sorte.
Exactement, oui. Donc si vous croisez un de ces tandems, c'est sûr que vous allez rencontrer quelqu'un.
Si je rencontre la fée gendarme, j'ai affaire à qui ? Une petite punaise, tiens, tenez.
Une petite punaise, gendarme, ou cherche-midi, ou soldat, etc. Alors elle tient son nom parce qu'elle ressemble aux gendarmes sous l'époque napoléonienne. Quand vous la retournez, quand vous mettez la tête en bas de la punaise gendarme, eh ben d'un seul coup vous apercevez que ça forme un masque. Ça pourrait être un masque océanien, africain. Et ce que j'ai remarqué en écrivant ce livre, ce que j'avais plus ou moins remarqué en les découvrant dans la nature, c'est qu'il y a deux petites larmes sous des deux gros yeux noirs, il y a deux petites larmes. Et du coup, ça m'a inspiré son pouvoir magique, qui dit « ceux qui fixent son masque une minute verront leur tristesse s'effacer ».
Mais alors quand même, je vois aussi que sur l'accouplement, c'est bien.
Oui,
c'est parce qu'un pouvoir magique, ça.
Voilà,
c'est
pour chacune de ces fées, j'ai aussi trouvé...
Un vrai pouvoir naturel.
Un vrai pouvoir naturel. Ah, oui. Et effectivement, je comprends pourquoi vous l'ayez noté.
Tiens.
Vous l'avez noté, l'accouplement peut durer 30 heures.
Eh oui. Puisqu'on a parlé pas mal de réchauffement climatique avec le sujet précédent sur Chamonix, réchauffement climatique et insectes, qu'est-ce que l'on constate quand même aujourd'hui ? On commence à avoir des remontées aussi d'insectes qu'on ne connaissait pas forcément chez nous.
Complètement, ils font un petit peu comme les oiseaux, tous ces animaux qui volent, ils se déplacent, les belles dames arrivent plus tôt, partent plus tard, ou ne partent plus. Il y a des insectes par exemple, comme le vulcain, qui restent sur place, avant ils migraient, et puis en fait ils restent sur place, alors particulièrement dans le sud de la France. En revanche, sur certaines espèces de populations de fées bourdons, eh ben, elles n'arrivent pas à monter plus au nord. Donc, du coup, ben, elles sont en train de disparaître, celles-là. Donc, tous ne s'adaptent pas.
La fée Lucane, nous connaissons les Lucanes, très joli. Le cerf-volant, un pouvoir naturel, un pouvoir magique.
Commençons par le pouvoir naturel, qui est un peu moins poétique. L'odeur des excréments projetés par la femelle attire les mâles.
Ah oui, comme ça.
Voilà.
C'est le parfum, c'est tout.
Bon, tout à fait. Et son pouvoir magique dit que l'attraper sans se faire pincer est signe que notre chance est prolongée. Parce qu'effectivement, vous l'avez remarqué, s'il s'appelle le Lucane cerf-volant, c'est qu'il a d'énormes mandibules qui ressemblent aux cornes de cerf. Et en général, quand on le saisit dans la main, il essaye de nous pincer. Donc celui qui ne se fait pas pincer aura de la chance assurée.
Allez, une petite dernière. La fée Bombile.
Alors Bombile, ça peut paraître un peu abscon pour les non-entomologistes, mais en fait c'est une espèce de petite mouche qu'on voyait dans le film Microcosmos, qui ressemble à un bourdon, mais qui a une espèce de long rostre qui lui permet d'aspirer le nectar des fleurs, et elle vole sur place devant les fleurs, et c'est vrai que la première fois qu'on tombe devant une fée Bombile, qui est une mouche, on pense que c'est un bourdon. Alors évidemment, son pouvoir magique est évident, cette fée étant mouche, elle fait disparaître tout bourdon.
Bon, et puis on rappelle simplement que bombile, on a le latin bombus, hein, donc c'est le bourdonnement donc pour ce diptère, voilà. Et puis ça vient du grec aussi. Hein,
oui, bombile, il y a aussi une étymologie qui dit qu'il est en forme de bouteille, parce que c'est vrai que cette mouche a vraiment une forme de bouteille évasée à l'arrière du corps. Elle est absolument ravissante, elle est très commune, elle butine les fleurs en volant de façon stationnaire, et elle va ensuite pondre dans les nids d'abeilles solitaires au sol, parce que sa larve est un peu parasite de fée abeille. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, je me suis vraiment amusé à trouver ces pouvoirs magiques, mais comme je sais que l'effet placebo, c'est à la fois pas sérieux, pardon, et très sérieux, parce que l'effet placebo fonctionne très bien, donc ces pouvoirs magiques, c'est exactement comme l'astrologie ou l'horoscope. Si vous y croyez, ils fonctionnent à 100%.
François Lasserre, rappelez-nous simplement quel est le rôle de ces insectes, parce que très souvent, bah, pour les gens, c'est juste des nuisibles, pour d'autres, ils ont compris l'intérêt, avec l'abeille entre autres, mais quand même, pourquoi ces insectes ?
En fait, les nuisibles, mais je mets vraiment d'énormes guillemets, ceux qui nous embêtent, c'est à peine 5% des espèces. En fait, toutes les autres espèces sont d'une certaine façon bienveillantes à notre égard. Elles pollinisent toutes les fleurs, ça veut dire que les fleurs deviennent des fruits. On n'aurait pas de fruits et de légumes sans les insectes. Ils recyclent tout ce qui tombe au sol, les crottes, les cadavres, les végétaux. Ils fertilisent le sol. Il y a une tonne de crottes de chenilles qui tombent dans un hectare de forêt. Rien que pour les chenilles, une tonne de fertilisants qui tombent en forêt. Ils nourrissent plein d'animaux. Il y a une quantité incroyable d'oiseaux qui ne pourraient survivre sans les insectes, ne serait-ce que les hirondelles. Elles volent toute l'année à chercher des insectes dans le ciel, etc., etc. Et puis, ils inspirent nos artistes, ils sonorisent nos étés. Qu'est-ce que ce serait nos étés s'il n'y avait pas un bourdonnement de mouches ou pas une cigale? Ce serait vraiment extrêmement triste. Donc, on peut aller sur tous les terrains, sur les terrains scientifiques, artistiques, etc., sur tous les terrains sensoriels, on s'aperçoit que les insectes sont les vraies bonnes fées de la nature. Et puis aussi, on peut penser, et c'est ce que la science nous a expliqué depuis d'ailleurs Darwin, de tous ces êtres revivants qui sont des animaux non humains, sont autant évolués que nous, ils ont tous autant de légitimité que nous à être dans la nature, mais bon, c'est nous qui fixons les règles, c'est vrai. Donc ce sont des vrais petits personnages qui habitent, qui ont leur culture, parce qu'on s'est aperçu que même les insectes avaient des cultures. Vous prenez une ruche d'abeilles, elle a certes une culture, une autre ruche d'abeilles, elle a une autre culture, un papillon à tel endroit, de la même espèce, etc. Donc ce sont des vrais petits personnages non humains de la nature qui ont autant de légitimité que nous à être sur Terre.
Les vrais faits de la nature de François Lasserre avec des photographies exceptionnelles réalisées sans aucun trucage, mesdames et messieurs. Donc signé Stéphane Hetz, c'est très beau, on dirait véritablement des peintures. C'est aux éditions Plume de Carotte. Que vous dire? Ah ben des petites choses. D'abord, le numéro de décembre, je vous l'ai déjà dit, mais quand même, de Terre sauvage, vivre la nature consacrée au climat, comment la nature fait face, avec de très belles photos, entre autres d'Arctique, avec des loups blancs de Vincent Munier. Merci à Ludovic Asselot, à David de Castelin-Federman, à Claire Destacan, à Xavier Pestugia, qui réalisait cette émission, à Anne Gouzon, donc, qui nourrit les sites. Vous en avez l'habitude, hein, franceinter.fr, CO de mon amour, le site, lâchez-vous, pas de problème, le courriel aussi, c'est tout à fait possible. La semaine prochaine, ça va être mer et montagne et Jean-Marie Pelt. Voilà, il y aura donc des reportages à la mer, des reportages à la montagne. Et puis Jean-Marie Pelt qui devrait arriver avec une très très belle orange, oui, au creux de la main. Vous êtes curieux de nature, ça tombe très bien, puisque Alain Bougrain-Dubourg vous attend à 7h55. Ce sera demain matin chez Patricia Martin. Nathalie Fontrelle, c'est à 7h20, c'est en semaine. Vos messages, vous pouvez y aller, hein, 01, alors ça dépend des périodes, des moments où vous appelez beaucoup, des fois un petit peu moins, vous laissez vos messages, 01 56 40 40 35. Le podcast, vous en avez l'habitude, la Tulu mon petit loup, je vous le disais, 19h54 après les petits bateaux. Et puis dans quelques instants, ce sera la librairie francophone d'Emmanuel Kerrade.